j'approche de la fin de ces leçons, puisque c'est l'avant-dernière aujourd'hui, et je suis contraint de me restreindre. Et donc, je laisse de côté la suite de cette grosse figure que j'ai entamée les deux dernières semaines sur la diffamation et le duel, parce que je pourrais poursuivre longtemps sur ce sujet. Il y a quelques grands cas que je vous rappelle, que j'ai parfois cités et qu'il vaudrait la peine d'analyser plus en détail. J'ai évoqué, il m'est arrivé de parler brièvement de la poursuite pour diffamation de Félix Pia, l'auteur du Chiffonnier de Paris, par Jeannin, en 1844. Bon, ils étaient amis avant d'être ennemis. La poursuite par le même Jeannin du Corsaire Satan, en 1847, et c'est la fin de ce journal qui ne s'en remettra pas. Ou la poursuite de Banville, encore par Jeannin, en 1856, toujours pour diffamation. Ce sont des poursuites qui mènent Pia en prison, Le Poitevin Saint-Alme, le directeur du Corsaire Satan, en prison, toujours à Sainte-Pélagie, et Banville qui devra payer des dommages-intérêts. Bon, il y aurait beaucoup d'intérêt à parler de ça, à montrer comment Jules Jeannin est un procédurier qui il est dans un milieu d'avocat et il ne cesse de poursuivre. Il y aurait aussi des duels très importants dont il faudrait parler, qui ont beaucoup marqué l'époque, le duel au pistolet d'Armand Carrel et d'Émile de Girardin en 1836, duel mortel. Armand Carrel, grand républicain, meurt tout jeune, il a 35 ans. C'est un litige entre la nouvelle presse, la presse créée par Girardin, et le journal d'opinion républicain qu'est Le National. C'est un changement de modèle de presse qui provoque ce duel, et Girardin est le représentant de la presse traditionnelle, de la presse nouvelle contre la presse traditionnelle. Et puis il y a ce duel aussi très célèbre, aussi au pistolet et aussi mortel, de Dujarrier, qui est le gérant de la presse avec Girardin en 1845, qui est l'amant de la fameuse Lola Montès, et Rosemond de Beauvallon, qui est le rédacteur du Globe et le beau-frère de Granier de Cassagnac. Donc vous voyez que ce sont toujours les mêmes qui reviennent, et cette fois-ci c'est un duel entre le Globe, la presse ministérielle payée par Guizot, et la presse industrielle, la presse indépendante. Ce sont des cas importants dont on parlera longtemps. Rosemond Beauvallon est poursuivi pour homicide volontaire en 1846. Il y a un procès très spectaculaire à Rouen. Et parmi les témoins, on trouve Alexandre Dumas. Alexandre Dumas est mêlé à toutes ces affaires. Il est toujours là. On trouve Alexandre Dumas, on trouve Roger de Beauvoir, autre romancier déjà cité, et on trouve Auguste Grisier, ce Grisier dont j'ai parlé il y a quelques leçons, qui est le maître d'armes dont tous les écrivains fréquentent la salle d'armes. Tous sont réunis dans le palais de justice de Rouen à ce moment-là. Mais je laisse de côté tout cela, j'y reviendrai peut-être un jour. Et je voudrais, dans ces derniers cours, recueillir plus rapidement quelques figures, des figures qui ne sont pas plus petites et qui ne sont pas non plus accessoires, elles sont majeures, mais je pense qu'elles doivent être évoquées pour mémoire ou pour annonce, en tout cas, sans trop les développer dans leur richesse et leur complication. Alors, la première figure que je voudrais évoquer aujourd'hui, c'est celle des guerrières, des femmes. Je l'avais évoqué brièvement à plusieurs reprises, parce que, au fond, cette guerre ou ce sport littéraire que nous traitons cette année, c'est un sport très masculin, peut-être trop viril et même machiste. Il me semble que lorsque Philippe Roger était venu, je m'étais un petit peu engagé à aborder un jour ou l'autre la place des femmes dans cette guerre. Alors je voudrais le faire à travers quelques stations Vous vous souvenez, oui, c'était, je crois, à propos du combat entre Saint-Georges, cet athlète de la fin du XVIIIe siècle, et le chevalier ou la chevalière Déon, devant le prince de Galles, hein, que j'avais éprouvé la nécessité. Alors, première station dans ces guerrières, le répondant, le correspondant de l'écrivain spadassin des lettres, c'est manifestement l'actrice. Il y a toujours une actrice qui accompagne le littérateur dans ce sport littéraire. Souvenez-vous des Illusions perdues auprès de Lousteau et de Lucien. Il y a Florine et Coralie, inséparables, les deux actrices. Dans La Fanfarlo de Baudelaire, on a le couple Samuel Cramer, la Fanfarlo. Dans Les aventures de Mademoiselle Mariette de Champfleury, il y a Gérard et Mademoiselle Mariette. Donc on trouve toujours ce couple de l'actrice et du littérateur à gage. Et c'est l'occasion justement de dire quelques mots de ce duel d'Alexandre Dujarrier en 1845 et du procès qui a suivi. Je l'évoquerai seulement du point de vue des actrices. On ne sait pas très bien quelle est la cause de ce duel entre Dujarrier et Rosemont de Beauvallon, mais ce duel a lieu à la suite d'un dîner donné par une actrice, Anaïs Lévienne. Au cours de ce dîner, il y a eu des impertinences, des échanges. Le dîner avait lieu aux Frères Provençaux, un des grands restaurants de Paris de cette monarchie de Juillet, qui était encore au Palais Royal, dans la galerie de Beaujolais, là où on n'y a plus aujourd'hui que le Grand Véfour. Mais il y avait trois restaurants l'un à côté de l'autre, très célèbres. C'était là qu'on se retrouvait pour une orgie. C'est un dîner qui dure toute la nuit, puisque lorsque Lola Montez témoignera, elle dira que Dujarrier était rentré à 7 heures du matin du dîner. Eh bien, au cours de ce dîner, deux littérateurs et d'actrices, ils sont une vingtaine, qui est à l'origine du duel, l'acte d'accusation revient sur le passé de Dujarrier. L'acte d'accusation, donc on poursuit l'autre, Beauvallon, pour homicide volontaire, avec préméditation. Et l'avocat général est obligé de reconnaître, en même temps, il faut le reconnaître, la fréquentation d'une société où règne le plus grand abandon et ses relations habituelles avec des femmes qui ne sauraient exiger des autres une réserve qu'elles ne s'imposent point à elles-mêmes, lui avait fait prendre l'habitude de certaines plaisanteries et de certaines libertés de langage qu'un homme bien élevé ne devrait jamais se permettre. Semble-t-il, selon les témoins, il avait tutoyé l'actrice, Mademoiselle Lévienne, qui était une actrice du vaudeville et qui donnait ce dîner, il l'aurait tutoyé et il lui aurait promis « je coucherai avec toi dans un mois ». Ensuite, il s'était excusé et fait pardonner, mais enfin, le ton avait monté à partir de cet incident. Donc, au palais de justice de Rouen, un an après, lors du procès, eh bien, il y a un défilé d'actrices. Toutes les actrices du dîner passent les unes après les autres, à commencer par Mademoiselle Lieven, qui recevait, et la voici qui entre. C'est le compte-rendu dans la presse, justement, de Girardin et de Dujarrier, qui est mort. Mademoiselle Athénaïs, Anaïs en vérité, Pauline Lévienne, mouvement de vive curiosité. La jeune actrice, dont la beauté n'est pas au-dessous de sa réputation, s'avance enveloppée dans un long cachemire. Elles sont toujours enveloppées dans un long cachemire, ces actrices, lorsqu'elles ne sont pas sur scène ou au dîner aux Frères Provençaux. Un voile dérobe ses traits, mais laisse deviner son émotion. Elle se dit âgée de 20 ans. Elles ont toutes 20 ans. Artiste dramatique. Monsieur le Président, connaissiez-vous Beauvallon ? J'ai été une fois chez lui au bal et je l'ai reçu une fois ou deux chez moi. Un peu plus tard, je crois que c'est le lendemain, c'est le tour de Lola Montez. Et la voici qui entre, non pas en scène, mais à la barre des témoins. l'audiencier introduit Mademoiselle Lola Montès. Vive sensation. Nous ne parlerons pas de l'élégance de sa toilette, qui est parfaite. Sa taille est petite, mais fine et bien prise. Ses traits fins et distingués sont pâles et indiquent, ainsi que son accent, l'origine espagnole. En fait, elle est irlandaise. Monsieur le Président, vos noms, Dolores Lola Montès, 21 ans, artiste dramatique. Eh bien, madame, dites-nous ce que vous pouvez vous rappeler. Et voici le compte-rendu de la Gazette des Tribunaux, c'est intéressant de les comparer. La Gazette des Tribunaux est un peu plus sobre, mais pas beaucoup. Mademoiselle Dolores Montès, dite Lola, artiste de la danse, elle dansait la tarentelle, hein, c'est ce qui l'avait rendue célèbre, c'était une danse espagnole, c'est pour ça qu'elle se faisait passer pour espagnole. L'apparition du témoin qui habitait la même maison que M. Dujarrier, enfin, ils vivaient ensemble, et qui a hérité d'une partie de sa fortune, excite un vif mouvement de curiosité. Mademoiselle Lola Montès est espagnole de naissance, et sa physionomie expressive, ses yeux bleus, ses cheveux noirs et son accent ne démentent pas son origine. Bon, je ne sais pas si c'est de l'ironie, mais elle est enveloppée d'un long cachemire, elle aussi. Elle relève son voile et paraît en proie à une émotion douloureuse. « Je suis, dit Mademoiselle Dolores, avec un accent espagnol très prononcé, dans un état de beaucoup de chagrin. Je ne me souviens pas assez pour donner la juste évidence. Je préfère être interrogée sur mon procès verbal. » Je disais, elle était irlandaise, hein, de père irlandais, de mère créole, et elle avait débuté à Londres quelques années plus tôt par des danses espagnoles. Et juste après le procès, elle quitte Paris pour Munich, où elle sera célèbre dans ses relations avec Louis II de Bavière. Bon, c'est un souvenir marquant, donc, que ce passage de Lola Montès. Et bon, je vous montre rapidement l'article du Larousse, du Grand Dictionnaire Universel, qui insiste beaucoup sur la suite de sa carrière en Bavière, cette ballerine sifflée à la porte Saint-Martin. On cherche dans la main de cette grande et belle personne à l'œil noir, impérieux, la cravache fameuse dont elle châtia tour à tour gendarmes, amants et créanciers. Donc ça, c'est la suite de la carrière de Lola Montès. Donc voilà le couple du littérateur et de l'actrice qui est très fortement mise en scène et qui est au centre de ce procès. L'avocat des parties civiles fait valoir ainsi que le pauvre Dujarrier. Voici la plaidoirie de l'avocat. Un des malheurs que nous apporte le duel, donc il s'agit d'un débat sur le duel, peut-on le condamner pour homicide volontaire ? L'avocat, en revanche, de Beauvallon, qui est Berryer, le grand orateur légitimiste, dit que, étant donné que le duel ne figure pas dans le code pénal, positivement, eh bien on ne peut pas condamner. Voici encore un des malheurs que nous apporte le duel. Un jeune homme de 29 ans, qui était l'appui de sa mère, qui de l'enfant de sa sœur avait fait le sien, a péri tragiquement dans une rencontre. On dit plutôt rencontre, hein, pour atténuer la chose. Donc toute une tirade où il s'agit de faire le procès du duel, en effet. Et puis, voici le portrait de ce Dujarrier qui vise à le disculper. Monsieur Dujarrier avait une part importante dans la propriété du journal La Presse, il en était le gérant. De plus, il avait la direction de la partie littéraire, du feuilleton, jeune, généreux, facile. Dujarrier n'avait jamais rencontré les dames de théâtre bien farouches. Donc c'est tout le procès porte sur ce partenariat des feuilletonistes et des actrices. Je dois le dire parce qu'il y a ici beaucoup de ces dames au procès. Elles sont toutes là. Et voici Beauvallon, de l'autre côté, présenté par l'avocat. Je vous ai montré M. Dujarrier avec ses amis, avec les indifférents, avec tout le monde. Venons-en à M. de Beauvallon. M. de Beauvallon est un créole de la Guadeloupe. Sa sœur a épousé M. Granier de Cassagnac. Et cette alliance l'avait rapproché du globe où il écrivait le feuilleton des théâtres. Il était très répandu aussi parmi les dames de théâtre. Je ne lui en fais pas un crime, il cédait aux entraînements de la jeunesse et aux facilités du feuilleton. Facilité du feuilleton. Les baudelairiens savent que c'est une formule qu'on trouve dans la Fanfarlot, reprise par Baudelaire, une formule qui a frappé Baudelaire, et c'est grâce à cette phrase que l'on sait que la Fanfarlot est sans doute contemporaine, cette nouvelle, du printemps de 1846. Baudelaire, dans la Fanfarlot, parle des facilités du feuilleton, comme disait récemment un brave avocat dans un procès tristement célèbre. Et c'est toute la Fanfarlot porte sur ce couple, feuilletoniste, journaliste, avocat. Et l'avocat général, qui vient après l'avocat des parties civiles, dit, c'est la Gazette des tribunaux, la véritable cause du duel, tout le monde la connaît, autrement dit, ce n'est pas la femme, ce n'est pas la dette de jeu, elle existe dans la polémique acariâtre engagée entre le Globe et la presse. Lorsque des écrivains, des journalistes échangent des injures tous les jours, il est impossible que le fiel ne pénètre pas dans le cœur. Et un peu plus bas, il s'agit donc d'une querelle de journaux, d'une querelle, comme en bas de la citation. C'est un combat, disait Dujarrier à Alexandre Dumas à la veille du duel, c'est un combat entre le Globe et la presse. C'est, comme Dujarrier l'a dit dans un style un peu fleuri, une querelle de boutique. Voilà donc la situation, querelle de boutique entre journalistes, avec ces actrices, et l'avocat général est très sévère pour ce milieu des journalistes et des actrices qui, dit-il, est celui qui entretient le duel. Si le duel survit, c'est dans ce milieu, ce n'est pas dans le milieu de l'aristocratie ou de l'armée. Et voici, oui, nombre de gens prétendent qu'il y a dans le duel quelque chose de chevaleresque. Ben non, ce n'est pas dans la classe aristocratique, ce n'est pas dans la classe élevée, ce n'est pas dans les hommes de salon, c'est parmi les littérateurs que le duel survit. Et voici le passage très sévère. Vous avez à juger un duel qu'on prétend avoir pris sa source dans le jeu. On se bat en duel dans cette société dont les mœurs forment un contraste si étrange avec nos habitudes graves de magistrats, nos habitudes douces de père de famille. L'avocat général s'adresse à un jury d'assises. On se bat pour ces femmes qui sont libres en apparence, mais qui en réalité sont soumises au plus dur esclavage, pour ces femmes qui dépendent des journalistes qui ont trouvé moyen de se faire aduler en se faisant craindre. Formule là aussi qui a frappé Baudelaire hein, sur le chantage que les journalistes, les feuilletonistes exercent sur les actrices de théâtre et dont beaucoup ont été accusées et c'est la situation de Samuel Cramer. Voilà où le duel est tombé et sans doute il ne peut tomber encore plus bas. Nous devons l'espérer pour le repos de la société et pour le bonheur des familles. Quel est le verdict du jury après ces plaidoiries? Eh bien, c'est l'avocat de la défense qui l'emporte. C'est Berryer, grand orateur légitimiste, qui dit « Vous voulez réprimer le duel, je ne le veux pas sans une loi positive. » Le jury prend un quart d'heure pour déclarer Beauvallon non coupable et pour l'acquitter. Donc, on a, je crois là, un bon témoignage, un beau témoignage très dramatique de cet état du duel entre les milieux littéraires, entre les différents organes de presse et de cette collusion des littérateurs et des actrices. Le second point que je voudrais évoquer dans cette place des femmes dans la guerre littéraire, c'est le rôle du travestissement. Elles sont actrices, elles sont guerrières, elles sont souvent travestie et parfois escrimeuse. J'ai remis en frontispice cette illustration que je vous avais montrée l'année dernière de la jeune actrice, le bouquet de la veille, et de son destin, le bouquet du lendemain, comme chiffonnière. Illustration qui vient du tableau de Paris d'Edmond Texier, une belle image de Valentin. Et on voit bien ici l'association donc de l'actrice et de l'épée. Elle est équipée d'une épée et elle est travestie pour jouer sur scène. Il y a une association entre la plume et l'épée, mais la plume et l'épée et le pantalon. Et on ne peut pas oublier que le pantalon est profondément transgressif pour les femmes, c'est ce que représente cette image au XIXe siècle, et qu'une ordonnance de 1800 interdisait aux femmes de porter un pantalon sans autorisation du préfet de police. C'est une ordonnance du 16 Brumaire an 9, sous le consulat, qui a interdit le pantalon jusqu'à 2013 aux femmes. Et elle est intitulée, cette ordonnance, « Ordonnance concernant le travestissement des femmes ». Toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. Cette interdiction a été partiellement levée par deux circulaires de la préfecture de police en 1892 et en 1909 qui autorisent le port féminin du pantalon, je cite, « si la femme tient par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d'un cheval ». En dehors de ces occurrences et cette autorisation, c'est interdit et cette ordonnance de la préfecture de police n'a jamais été abrogée. La ministre des Droits de la Femme a répondu en 2013 seulement à un sénateur que cette ordonnance était implicitement abrogée par les principes d'égalité entre les femmes et les hommes qui sont inscrits dans le préambule de la Constitution de 1946. Mais je crois qu'il faut se rappeler cela pour voir l'importance de ce travestissement féminin, l'importance du bal masqué, dont j'ai pu parler l'année dernière, et du statut des escrimeuses, des femmes et du duel. Et les escrimeuses sont aussi des auteurs. Pensez à l'importance du duel dans Mademoiselle de Maupin. Dans Mademoiselle de Maupin, Madeleine, travestie en Théodore, doit se battre en duel pour avoir refusé d'épouser Rosette. Comme elle refuse d'épouser Rosette, qui la prend pour un homme, elle doit se battre en duel avec Alcibiade, le frère de Rosette. Et bien sûr, elle l'emporte. Elle refuse le mariage et elle dit « Je ne puis que persister dans mon refus ». Elle a des raisons qui sont ignorées. Et puisque j'ai la liberté du choix entre le duel et le mariage, je préfère le duel. C'est un goût singulier et que peu de gens auraient, mais c'est le mien. Donc il y a un duel entre Mademoiselle de Maupin et Alcibiade où elle l'emporte. Elle lui pousse une flanconnade si bien liée que je l'atteignis au côté, il fit haut et tomba en arrière. Donc c'est un duel important au centre de la littérature. On peut aussi rappeler que de tous les romans du XIXe siècle, c'est peut-être dans ceux de George Sand que les duels sont les plus nombreux et que George Sand est tout à fait sensible aux duels. Mais peu de duels entre femmes sont répertoriés et encore moins de duels entre des femmes et des hommes au XIXe siècle. Je citais la semaine dernière l'annuaire du duel de... À la fin du cours, je citais cet annuaire du duel de Féréus, qui est Édouard Dujardin, l'auteur des Lauriers sont coupés. C'est l'un des rares catalogues de duels que l'on ait, qui porte sur les années 1880-1889, donc sur cette décennies, qui donne des statistiques, je vous les rappelle, hein, 598 duels, 16 morts, 167 duels qui s'arrangent, donc 431 duels consommés, comme il dit. Hein, une moyenne de donc, un peu plus de 40 duels par an et quelques morts par an. Eh bien, dans ces 598 duels, je me suis dit, c'est une statistique que Tarde, puisque Tarde fait ses statistiques à partir de cet annuaire. Voici le calcul de Tarde dans son exemplaire du livre, hein, c'est le même tableau que celui-ci. Eh bien, Tarde ne fait pas remarquer qu'il n'y a pas un seul duel entre femmes. Il analyse les duels par mois de l'année pour voir quels sont les mois où il y a le plus de duels, et il trouve que c'est le mois d'octobre qui est le plus, où les duels sont les plus fréquents, mais il ne donne pas de statistiques pour les femmes, enfin, il ne fait pas remarquer qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas un seul dans son livre, me semble-t-il, et c'est d'autant plus curieux que Tarde ne soit pas intéressé à cela, qu'il est profondément antiféministe. C'est un livre intéressant, que sa monographie du duel, c'est l'une des seules monographies de sociologues pour le duel, mais à ses yeux, si le duel se perpétue en France, j'ai dit la semaine dernière, c'est la faute des littérateurs, puisque les duels ont majoritairement lieu entre littérateurs. C'est la faute des littérateurs, mais c'est d'abord la faute des femmes. C'est d'abord la faute des femmes, et il évoque le moment où même les femmes commencent à se mettre en duel, à se battre en duel. Voici comment il dit « On voit partout les petits singer les grands, mais quand les femmes même singent les hommes et se battent en duel, c'est signe que l'entraînement de l'exemple est exceptionnel. » Alors, le duel persiste à ses yeux parce qu'on se bat pour la galerie, on se bat pour les femmes. On se bat toujours pour la galerie, mais principalement pour la galerie des dames. Si elles étaient reléguées au gynécée chez nous comme chez les Grecs, si leur jugement ne comptait pas, si les gens outragés publiquement n'avaient à tenir compte de l'opinion que des autres hommes, beaucoup d'affaires dites d'honneur seraient assurément évitées. Donc les femmes commencent à se battre, à imiter les hommes, mais surtout on se bat pour elles. Voici comment ça continue. La femme, a-t-on dit peu galamment, est une éponge de vieux préjugés. Elle est le dévouement même, mais elle est aussi terriblement vindicative, comme l'étaient nos lointains aïeux, et en Corse, en Sardaigne, en Sicile. La vendetta est surtout inspirée par elle. La colombade mérimée est peinte sur le vice. Plus que l'homme, elle vit pour autrui et aussi pour l'opinion d'autrui, etc., etc. Donc, profond antiféministe qui fait qu'à ses yeux, ben, si le duel persiste en France à la fin du XIXe siècle, c'est à cause des femmes et des écrivains. Si elles cessaient de s'y intéresser, le duel s'arrêterait. Alors, d'où vient cette animosité profonde de Tarde contre les femmes à propos du duel? Ben, je pense peut-être parce qu'il y a un certain nombre d'affaires dans ces années-là qui mettent en scène des femmes et le duel, et des femmes qui revendiquent le duel pour les femmes de lettres comme pour les hommes de lettres. Et je voudrais évoquer un cas qui a aussi beaucoup fait couler d'encre dans ces années-là, juste à l'époque dont il est question, c'est le cas de Séverine. Vous vous souvenez de Séverine, grande féministe, grande journaliste à l'époque du boulangisme et de l'affaire Dreyfus. Séverine était la secrétaire de Vallès et elle dirigeait le Cri du peuple avec lui. Puis après la mort de Vallès, c'est elle qui dirige le Cri du peuple avec son compagnon qui s'appelle Georges de la Bruyère, qui est un autre journaliste. Et ils sont tous deux, comment dire, boulangistes de gauche en 1889. Et en septembre 1890, elle écrit un article dans le Gil Blas contre Mermex. Mermex, c'est Gabriel Terrailles, c'est aussi un boulangiste de gauche, c'est le rédacteur en chef de la Cocarde, la publication boulangiste. Il vient d'être élu, en même temps que Barrès, aux élections de 89. Il est député du 7e arrondissement de Paris. Et à l'automne de 90, il publie un feuilleton dans le Figaro intitulé « Les coulisses du boulangisme », feuilleton anonyme où il dénonce la collusion du boulangisme avec la droite monarchiste. Donc, c'est à cela que réagit Séverine sous le pseudonyme de Jacqueline dans le Gil Blas. Et elle le traite de Judas. Il a signé X, ses coulisses du boulangisme. Le nom d'X ne le cherchait plus. Il s'est appelé Judas dans la chrétienté, Deutz dans la seconde chouannerie. C'est Simon Deutz qui avait dénoncé la duchesse de Berry en Vendée en 1832. C'est une drôle d'accumulation. Il a livré Maximilien à Querétaro, donc au Mexique, Gordon à Khartoum. Notre temps, moins individuel, inflige à cet anonyme un surnom anonyme, celui que lui donna le proscrit dont il confirme et justifie la condamnation. Il l'appelle Ordure, tout simplement. Signé Jacqueline. Jacqueline, c'est son pseudonyme dérivé de Jacques Vintras de Vallès. Alors, Mermex, après cet article qui le traite de Judas, lance un défi. Mais ce n'est pas Séverine qui répond au défi, c'est son compagnon, Georges de la Bruyère, qui se bat à sa place. Il se bat à sa place et il est blessé par Mermex. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails parce que c'est là aussi un duel dont on a beaucoup parlé parce qu'il est blessé par Mermex après que le directeur du combat a crié « halt ». Donc, ça donne lieu à beaucoup d'injures pour félonie. Il faut ajouter que ce sont d'anciens amis, encore une fois, puisqu'ils ont été témoins. Ils se sont tous les deux beaucoup battus, Mermex et La Bruyère. On les trouve à toutes les pages de l'annuaire de Féréus dans les années 80. Ils se battent l'un contre l'autre et parfois ils sont aussi témoins l'un de l'autre. Donc, selon les aléas, les vicissitudes de l'actualité politique. Et là, eh bien, La Bruyère est blessée après le cri de « halt » crié par le directeur du combat, si bien que cela fait une grande affaire dans toute la presse à l'automne de 1890. Il qualifie Mermex de forfaiture et de félonie. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la protestation féministe contre Séverine. Séverine, grande féministe, journaliste importante, eh bien, elle subit l'assaut des féministes parce qu'elle a laissé un homme se battre à sa place en duel. Et les féministes qui protestent sont les fondatrices de la Ligue de l'affranchissement des femmes, fondée en 1890, dont une héroïne est importante. Je découvre les détails sur elle dans un dictionnaire des féministes qui vient de paraître aux presses universitaires de France. Cette fondatrice de la Ligue de l'affranchissement des femmes est une écrivaine qui s'appelle Marie-Rose Astier de Valserre. Elle a fait des études de médecine, elle a été infirmière dans la guerre de 1870. Elle porte un pantalon sans autorisation. Elle est cycliste et escrimeuse. Elle fait une pétition pour l'abrogation de l'ordonnance de 1800, en 1887. Elle est candidate aux élections municipales en 1889 et elle publie un livre qui s'appelle « Les Amazones du siècle ». Eh bien, cette femme qui est habituée aux duels dans les années 80, c'est pourquoi il y a des duels, Curieusement, ils ne sont pas dans le livre de Féréus, je ne sais pas pourquoi, mais voici un duel où elle s'est battue à Waterloo, en Belgique. Un duel entre femmes. Un duel entre femmes vient d'avoir lieu en Belgique, comme le démontre la note suivante que nous recevons. Madame Astier de Valserre, connue pour quelques livres qu'elle a publiés, vient de se rendre à Waterloo, Belgique, pour une rencontre à l'épée avec une Américaine, Miss Shelby. Dans une discussion au sujet de la supériorité des doctoresses françaises sur les doctoresses américaines, elle avait envoyé son gant au visage de Miss Shelby. La France a été victorieuse. Au second engagement, l'Américaine a été légèrement touchée au bras. Les témoins ont déclaré que tout s'était loyalement passé. Voici encore un combat qui a fait parler de lui, puisqu'il est illustré dans la presse britannique, dans les Illustrated Police News, où on voit « The duel between women in France ». Mais quand on devait se battre, on franchissait souvent la frontière parce qu'il était plus facile de déjouer la gendarmerie de cette manière. Eh bien, selon ces duellistes fondatrices de la Ligue de l'affranchissement des femmes, Séverine a trahi ses responsabilités en laissant un homme se porter à sa défense, et elle est blâmée. C'est une action d'éclat de la jeune Ligue de l'affranchissement féministe, ainsi rapportée dans le Gaulois du 15 septembre 1890. Voici leur motion. Considérant que toute femme qui ne veut pas avoir la responsabilité de ses actes en obligeant un homme à se battre pour elle commet un crime en toutes circonstances, notamment comme Madame Séverine à propos des coulisses du boulangisme, considérant que la dite Madame Séverine, en dénigrant et reniant le boulangisme après l'avoir manifestement servi, a tenu une conduite inqualifiable, dans sa réunion du 10 septembre 1890, la Ligue de l'affranchissement des femmes, bien qu'anti-boulangiste et auteur de l'adresse aux femmes contre Boulanger, janvier 1889, sur la demande de la citoyenne d'Estoc, jette un blâme sévère à Madame Séverine. Pour la Ligue, la secrétaire Astier de Valserre, G. d'Estoc. G. d'Estoc, c'est un pseudonyme, c'est une femme qui est aussi écrivain, c'est une femme qui s'appelle Marie-Paul Alice Courbe, c'est une femme qui a été une maîtresse de Maupassant, qui a alterné les relations saphiques et les relations hétérosexuelles, et c'est elle qui réclamait pour les femmes de lettres à capacité égale, salaire égal. Et elle faisait partie du groupe des escrimeuses qui voulaient servir à l'épée la cause des femmes, et notamment la cause des femmes écrivains. Elle est célèbre, G. d'Estoc, pour s'être battue en duel avec une écuyère et trapéziste du cirque Medrano qui l'avait abandonnée. Et ce duel entre G. d'Estoc et Emma Rouer, l'écuyère du cirque Medrano, est représenté dans une lithographie très populaire des années 1890. Voici leur combat intitulé « Une affaire d'honneur ». Entre ces deux femmes, vous voyez que les deux femmes sont dévêtues, les deux témoins des deux femmes, des deux duellistes, sont des femmes, et il y a un tableau, le pendant, après le duel, intitulé « La réconciliation des deux femmes ». Ce combat est donc encore l'un de ceux qui montrent qu'il y a bien cette revendication du duel pour les femmes de lettres dans ces années 1890, mais je dirais en conclusion une place difficile à conquérir dans cette guerre littéraire menée par les hommes, et vous le voyez, jusque tard dans ce 19e siècle. J'arrête pour cette figure parce que je voudrais aborder une figure qui mènera à la conclusion de ce cours pour cette année, qui a donc porté sur la guerre littéraire dans ses aspects belliqueux, dans ses aspects violents. Et je voudrais consacrer le cours, la fin du cours d'aujourd'hui et le cours de la semaine prochaine, à, comment dire, un aspect plus heureux de cette guerre littéraire, à quelque chose qui serait la beauté de cette guerre littéraire. Je ne sais pas trop bien comment appeler cette figure en référence à Apollinaire. Ça pourrait être que la guerre est jolie, la guerre littéraire. Mais je pensais intituler cette figure en référence à René Char dans Fureurs et Mystères. Et il y a une section qui est intitulée, de poème qui est intitulé Les loyaux adversaires. Et je voudrais évoquer donc les écrivains en guerre comme loyaux adversaires. Autrement dit, cette figure que j'aborde maintenant, c'est le pendant de cette figure que j'avais appelée au début du cours camaraderie. Et vous vous souvenez que camaraderie, c'était le compérage, c'était le charlatanisme, comme disait Stendhal, qui parlait encore de canaille littéraire. Il y avait tous ces termes équivalents, camaraderie, charlatanisme, compérage. Eh bien, il y a un aspect, me semble-t-il, rédempteur, qui n'est plus la camaraderie, mais qui est véritablement la loyauté entre écrivains, le respect mutuel et une authentique fraternité d'armes entre adversaires. Et je voudrais la trouver pour la développer et pour finir de manière, plus heureuse dans cette relation entre les écrivains en guerre comme contrepoint de leur combat quotidien. Alors, où trouver le témoignage de cette solidarité entre adversaires, de cette authentique solidarité, alors que la camaraderie ne l'était pas, comme on l'a vu? Eh bien, l'endroit où on peut la rencontrer, c'est en prison. Puisqu'après tout, la plupart des écrivains du XIXe siècle sont passés par la case prison comme prévenus ou comme condamnés. C'est en prison, dans la solidarité des prisonniers, que l'on rencontre cette belle solidarité. Le premier témoignage que je trouve de cette belle solidarité en prison, c'est chez l'un des grand spécialiste de la prison au XIXe siècle, Moreau Christophe. Moreau Christophe, qui est l'auteur d'un livre sur les prisons important, intitulé « De l'état actuel des prisons en France, considéré dans ses rapports avec la théorie pénale du code ». Un livre publié en 1837, un livre dont Michel Foucault faisait grand cas dans « Surveiller et punir » quand il publié ce livre en 1865, c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur, connaisseur du système carcéral en France, et cet ouvrage est à prétention scientifique, bien sûr. C'est un ouvrage de réforme des prisons. Moreau Christophe est inspecteur général des prisons de la Seine au début de la monarchie de Juillet, 1830-1833. Début du régime de Juillet. On l'a déjà vu, Gabriel Tarde appelait la période agitée. C'est là où il y avait le plus de morts en duel, en 1832-1833. C'est une période d'insurrection constante, c'est une période d'émeute, c'est une période d'épidémie, le choléra. On a vu l'an dernier l'émeute des chiffonniers au printemps de 1832. C'est une période particulièrement agitée et donc les prisons sont pleines. Et ce que dit cet excellent connaisseur, ensuite il deviendra, après avoir été inspecteur des prisons de la Seine, il sera inspecteur général des prisons du royaume jusqu'à la Révolution de 1848. Et de manière intéressante, il est aussi l'auteur de l'article sur les prisons dans Les Français peints par eux-mêmes, Donc on a à la fois le gros livre scientifique et puis l'article de la littérature panoramique. Dans cet ouvrage sur l'état actuel des prisons, il dit qu'à l'époque, 1830-1833, quand il était l'inspecteur des prisons de la Seine, les détenus politiques de Sainte-Pélagie, la prison où se trouvent les écrivains, se fractionnaient en trois partis distincts, les carlistes, les napoléonistes et les républicains. En vérité, les deux groupes importants, à ce moment-là, ce sont surtout les carlistes, légitimistes et les républicains, dans le début de la monarchie de Juillet. Et il poursuit en disant que, entre ces groupes de légitimistes et de républicains, il y avait une grande complicité dans les prisons. Il décrit ainsi ce qu'il appelle l'aristocratie des républicains. L'aristocratie des républicains avait dans la prison un quartier privilégié. Ils couchaient dans des chambres séparées, jamais dans les dortoirs communs. Il se composait de médecins, d'avocats, de journalistes, d'artistes, d'étudiants, d'hommes de lettres. La plupart avaient une mise recherchée et étaient meublés avec luxe dans la prison. Autrement dit, il y a cette aristocratie républicaine, à la fois il y a la plèbe républicaine, anarchiste, et puis il y a l'aristocratie républicaine. Je voulais vous montrer voilà, l'illustration des Français peints par eux-mêmes de la salle du dépôt, où on voit ce mélange de classes dans le dépôt de la préfecture de police, où se retrouvent, avant d'être envoyés à Sainte-Pélagie, les prisonniers. Gravure donc d'Henri Monnier. Et voici ce qu'il dit de ce climat de Sainte-Pélagie entre 1830 et 1833. Complicité des légitimistes et de l'aristocratie républicaine. Les chefs républicains fraternisaient avec les chefs carlistes, tout en s'entredonnant entre eux les noms de chouans, de vendéens, de jacobins, de buveurs de sang. Donc il y a cette sorte de familiarité dans l'appellation. Ils mangeaient souvent ensemble et se voyaient fréquemment dans le cours de la journée pour faire la police parmi leurs hommes. Donc, entente des chefs. Et un témoignage que je prends, très intéressant, de cette complicité des républicains et des légitimistes en prison, voici ce qu'il dit encore, Moreau-Christophe, dans cet ouvrage, c'est une note, « Il se donnait aussi des soirées et des soirées charmantes. Un jour, 18 février 1833, Monsieur le vicomte Sosthène de La Rochefoucauld donna un concert dans le salon du directeur. Bon, » il faudrait parler de ce rapport entre l'aristocratie prisonnière et le directeur. J'y assistais. Il avait fait venir un piano avec Madame Chabouillet-Saint-Phal, un violon avec Clavel de l'Opéra, une harpe avec la maîtresse de musique de sa fille, un ange de grâce et de beauté qui, depuis hélas, a été enlevée à la tendresse de son père à 15 ans. Toutes les oreilles furent charmées, mais les yeux des dames qui étaient invitées au concert, furent singulièrement distraits par le groupe des républicains auquel le noble vicomte faisait les honneurs avec une grâce gentilhommière parfaite. Le père enfantin, qu'on attendait avec une grande impatience, fit dire par son apôtre qu'il ne pouvait venir, sa divinité était indisposée. Bon, le père enfantin, c'est le supérieur des Saint-Simoniens, lui aussi en prison, et je crois que c'est un excellent témoignage de ce régime de la prison dans un moment le plus agité du début de cette monarchie de Juillet et du régime relativement libéral, avec des rapports policés entre prisonniers, geôliers, directeurs et inspecteurs. Rappelons qui est Sosthène de La Rochefoucauld, le duc de Doudoville, qui était à Gand avec Louis XVIII, qui était l'aide de camp du comte d'Artois, député ultra de la Restauration, et qui est le directeur des Beaux-Arts sous Charles X, de 1824 à la Révolution de 1830. Directeur des Beaux-Arts, ça veut dire patron des théâtres, et ça veut dire celui qui supervise la censure des théâtres. C'est le grand censeur. Tous les écrivains le connaissent. Il est à Pélagie, à Sainte-Pélagie, en 1833, parce qu'il vient de publier une brochure contre Louis-Philippe, intitulée « Aujourd'hui et demain, ou ce qu'il adviendra ». Bon, cette brochure a été aussitôt saisie, il a été déféré en cour d'assises, prévenu de délits d'attaque contre les droits que le roi, qui par ailleurs est son cousin, tient du vœu de la nation française et de la charte constitutionnelle, provocation non suivie d'effet au crime d'attentat tendant à détruire ou changer le gouvernement, etc. Il a donc été accusé, Sosthène de La Rochefoucauld, à 3 mois de prison et 500 francs d'amende. Il faut donc imaginer l'aide de camp de Charles X, directeur des Beaux-Arts jusqu'à juillet 1830, en conversation avec le père Enfantin, supérieur des Saint-Simoniens, qui est dans la chambre ou dans la cellule mitoyenne. Et dans ses mémoires, Sosthène de La Rochefoucauld cite à différentes reprises le père Enfantin. Bon, vous voyez cette proximité qu'introduit la prison. Bon, j'aurai peu de temps pour parler de Chateaubriand, mais je vous invite à relire le passage dans les Mémoires d'Outre-Tombe où Chateaubriand est arrêté en juin 1832 et se trouve au dépôt en prison, et où on a ce joli témoignage de proximité, enfin, comment dire, des vicissitudes de l'histoire. La roue de la fortune tourne à toute vitesse, et Chateaubriand est donc arrêté au petit matin chez lui en juin 1832 pour complot contre la sûreté de l'État. C'est au moment de l'expédition de la duchesse de Berry. Et il se trouve dans la cour du dépôt qu'on voyait tout à l'heure, quai des Orfèvres. Et celui qui est venu l'arrêter a une conversation avec lui dans la cour parce qu'il n'y a pas de cellule de libre. Et il dit « Tandis qu'on s'occupait de me trouver une cellule, je me promenais dans la cour de long en large avec le sieur Léoto, qui est venu l'arrêter et qui le gardait. Il causait et me disait amicalement, car il était très honnête, « Monsieur le vicomte, j'ai bien l'honneur de vous remettre. Je vous ai présenté les armes plusieurs fois quand vous étiez ministre et que vous veniez chez le roi. Je servais dans les gardes du corps. » Et voilà la conversation et cet échange et cette roue qui tourne. Bien, c'est la même chose qu'on trouve avec Sosthène de La Rochefoucauld à la prison de Sainte-Pélagie en 1833. On lui fait savoir qu'il suffirait, pour qu'il soit transféré dans une maison de santé, il suffirait qu'il le demande au ministre. Mais par orgueil, il ne le fait pas et reste en prison avec les Républicains. Et on a une magnifique description dans ses mémoires de la solidarité des prisonniers. Et en voici un exemple. À 7 heures, chacun rentre et on se réunit dans ma chambre pour y jouir pendant 1 heure ou 2 du plaisir de la conversation. On ferme les clés dans l'escalier, mais c'est seulement à 9h qu'on les enferme dans leur cellule. C'est M. Germain Saru qui passe pour avoir des opinions républicaines avancées, homme instruit, homme d'esprit et de caractère, d'un commerce aimable et qui ne s'émeut pas plus de se trouver en face d'un royaliste que celui-ci ne s'étonne de se plaire dans la société d'un républicain. Alors, qui est Germain Saru? Germain Saru, c'est le directeur de la Tribune des départements. C'est le grand journal républicain. Il est en prison en 1833, au moment des émeutes qui suivent la grossesse de la duchesse de Berry. Puis ça continue, c'est M. Philippon. M. Philippon, c'est le directeur de la caricature et du charivari. Les grands journaux de caricature contre Louis-Philippe, c'est l'inventeur de la poire, de la caricature de Louis-Philippe en poire. C'est M. Philippon, esprit original, dessinateur habile et hardi, observateur excellent, qui va sans cesse furetant le ridicule personnel et politique. Le découvre, malgré tout, saisit le saisit et le fouette avec la spirituelle et sanglante satire de son crayon. Artiste doué d'une prodigieuse facilité et à qui on ne peut reprocher que de dépenser son génie en détail sur des sujets du jour, tandis qu'avec plus d'études et d'aplomb, il serait devenu le Hogarth français. Bon, et c'est le début d'une amitié entre Sosthène de La Rochefoucauld, Germain Sarru et Philippon, l'inventeur de la poire. Alors on pourrait dire que c'est une alliance de circonstances contre Louis-Philippe, mais je crois que c'est insuffisant. Et voici ce qu'il dit de Philippon, c'est très intéressant, ça nous montre. Je me rappelle au sujet de M. Philippon une anecdote assez piquante. On venait de le conduire à Sainte-Pélagie, il avait été condamné à 13 mois, lui. Il était logé dans mon escalier. Le nouveau venu me reconnut et me dit « Monsieur de La Rochefoucauld, vous rappelez-vous un tout jeune homme qui vint un jour vous demander de protéger son entrée au théâtre ?» Directeur du théâtre. « C'était moi. Vous mîtes pour condition la permission de mes parents qui s'y opposaient. Pour me venger, j'achetais un petit journal où je vous déclarais une guerre à outrance. Je reconnais mon injustice et mes torts. Veuillez les oublier, me dit-il avec grâce. Je lui tendis la main et nous sommes restés amis. » Donc, on voit ce pardon face à l'ennemi commun. Et puis, en effet, Sosthène de La Rochefoucauld raconte lui aussi l'épisode du salon de musique, le salon de musique où on donnait des concerts entre républicains et carlistes à Sainte-Pélagie dans ces années-là. J'ai de la musique chez le directeur un jour par semaine, où j'invite... C'est lui qui est censé donner la soirée où j'invite autant de républicains que de légitimistes. Il n'y a pas d'opinion sous les verrous. Ce jour-là, ma fille et sa gouvernante restent à dîner. Mademoiselle Huin, la gouvernante de ma fille, apporte sa harpe dont elle joue avec grâce. Mademoiselle Chabouillet-Saint-Phal, notre voisine de la Vallée aux Loups, avec son admirable talent sur le piano. Mademoiselle Saint-Phal, sa belle-fille et l'aimable Madame Ferrand, leur amie intime, font des délices, les délices de la soirée. Voilà comment on s'occupe à Sainte-Pélagie entre républicains et carlistes. Et cette amitié me semble assez profonde, mais on le voit, tous les républicains n'en font pas partie. Un soir, nous causions au coin de mon feu lorsqu'un soi-disant républicain me dit tranquillement « Monsieur de La Rochefoucauld, il est à penser que nous nous rencontrerons un jour sur la place publique en face l'un de l'autre et vous serez le premier que j'abattrai parce que votre caractère et votre modération vous rendent un de nos adversaires les plus redoutables. « Merci de m'avoir prévenu, lui répondis-je, mais tenez-vous sur vos gardes. C'est mal, reprit aussitôt M. Germain Sarru, de tenir un semblable propos à celui qui, tous les soirs, nous reçoit si cordialement dans sa chambre. » Et l'épisode qui me paraît le plus savoureux dans ces mémoires de Sosthène de La Rochefoucauld, c'est une visite qu'il reçoit un après-midi dans sa cellule, au cours de laquelle Germain Sarru entre à l'improviste. Et, dit-il, il donna la preuve la plus aimable de son tact parfait. C'est un républicain, mais c'est un républicain bien élevé, qui a de bonnes manières. En effet, Sosthène de La Rochefoucauld reçoit dans sa chambre, ce jour-là, Madame de Montesquieu, qui est sa tante, la sœur de sa mère. C'est, vous vous en souvenez, la gouvernante du roi de Rome, la maman Q. Elle est là, dans la cellule, avec sa belle-fille. Sa belle-fille, c'est la femme d'Anatole de Montesquieu, qui est, lui, le chevalier d'honneur de la reine Marie-Amélie, la femme de Louis-Philippe. Et on a donc ici les quatre régimes du XIXe siècle. Sosthène de La Rochefoucauld, le légitimiste, Madame de Montesquieu, gouvernante du roi de Rome, la belle-fille de Madame de Montesquieu, dont le mari est chevalier d'honneur de la reine, et puis le républicain, Sarru. Et Sosthène de La Rochefoucauld dit « Je lui dis tout bas le nom et la qualité de ma visiteuse, hein, pour qu'il sache comment se comporter. Il était impossible de n'être pas frappé de l'esprit et du goût de monsieur, que M. Saru sut mettre en parlant de Louis-Philippe et de son gouvernement, sans ménager aucune vérité, et pourtant sans blesser jamais les sentiments et les convenances. Et ces mémoires de Sosthène de La Rochefoucauld nous montrent cette entente cordiale entre ce qu'il appelle, ou ce qu'on peut appeler, cette aristocratie républicaine et les légitimistes dans la prison de Sainte-Pélagie. Si bien que quand il quitte Sainte-Pélagie au bout des 3 mois, voici ce qu'il écrit : « Mon départ de la prison avait été fort touchant. Mes compagnons de captivité avaient paru unanimes dans l'expression de leurs regrets. Ma première sortie fut pour aller visiter mes compagnons de Sainte-Pélagie. » Il y retourne aussitôt. Et que se passe-t-il ? Entre les deux, il a reçu de Philippon une lithographie le représentant dans son cabanon de Sainte-Pélagie. Malheureusement, nous ne la connaissons pas, enfin, je ne la connais pas, cette lithographie, mais voilà la lettre qui accompagnait la lithographie. Je saute sur... Voilà. Voici la lettre de Philippon à La Rochefoucauld. « Votre dessin est fait, la chambre est très ressemblante, mais votre personne ne l'est pas du tout, parce que l'artiste, le graveur, n'avait pas eu, comme moi, l'honneur de vous voir au ministère lorsqu'il l'avait été conduit et le plaisir de vous retrouver en prison. Ce croquis tel qu'il est pourra, je pense, vous satisfaire parce qu'il peint exactement le cabanon dans lequel vous avez vécu quelques mois. Recevez, monsieur le vicomte, l'expression de l'estime et de l'amitié que vous avouez l'un de vos compagnons d'infortune. Sainte-Pélagie m'a fourni l'occasion de reconnaître que je m'étais trompé à votre égard. Je remercie les juges qui nous ont réunis. Voilà l'état d'esprit que je voulais décrire comme celui de cette amitié des prisonniers qui me paraît aller au-delà d'une alliance de circonstances. Et je crois qu'il y a aussi bien dans les mémoires de La Rochefoucauld que dans les lettres telles que celles de Philippon, un ton de sincérité qui montre ce qu'a été le réseau des prisonniers. Et si j'avais un peu plus de temps, eh bien je le retrouverais dans ces passages des Mémoires d'Outre-Tombe que je vous citais, mais je pense que j'y reviendrai la semaine prochaine. Et ces témoignages de Chateaubriand qui sont assez semblables. Chateaubriand rendant visite, par exemple, à Armand Carrel, à Sainte-Pélagie, et disant ceci, « J'allais le voir 2 ou 3 fois par semaine. » Si j'avais le temps, l'une des figures que je traiterais, c'est la visite à Sainte-Pélagie, parce qu'elle est racontée dans beaucoup, beaucoup de livres du XIXe siècle. C'est un lieu commun de cette littérature. J'allais le voir 2 ou 3 fois par semaine. Je le trouvais debout derrière la grille de sa fenêtre. Il me rappelait son voisin, un jeune lion d'Afrique au Jardin des Plantes. Sainte-Pélagie, c'est à côté du Jardin des Plantes. C'était rue de la Clef. On avait la vue. Si on avait une bonne cellule, on avait la vue sur le Jardin des Plantes. Immobile au barreau de sa loge, le fils du désert laissait errer son regard vague et triste sur les objets au dehors. On voyait qu'il ne vivrait pas. Ensuite, nous descendions, M. Carrel et moi, le serviteur d'Henri V, se promenait avec l'ennemi des rois, dans une cour humide, sombre, étroite, encerclée de hauts murs comme un puits. Bien, le serviteur d'Henri V et l'ennemi des rois ont été amis, et il faut rappeler que Chateaubriand a bien sûr été présent aux obsèques d'Armand Carrel quelques années plus tard, avec beaucoup des légitimistes, encore un indice de cette solidarité des prisonniers dans ce début de la monarchie de Juillet. Vous voyez que c'est une figure qui me semble un peu plus heureuse que celle de la canaille littéraire que décrivait Stendhal. Mais l'ennui, c'est qu'il fallait passer par la case prison pour la rencontrer. Merci.